Lecture assez énigmatique aujourd'hui dans l'Apocalypse et puis l'Évangile aussi. Je trouve cela en tout cas énigmatique parce que, bon, on voit bien quand on lit, on a une idée des personnages, ça va bien, mais donc d'abord on a un ange qui a un pouvoir sur Satan. Donc manifestement le pouvoir de Satan est réduit puisque Satan c'était quand même le premier des anges, hein. Alors, il s'agit peut-être de Michel, puisque Michel a vaincu Satan, et il l'enchaîne pour une durée de 1000 ans. Une notion des 1000 années qui va revenir après. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, Saint-Irénée a parlé du millénarisme, il y a divers travaux qui ont été faits, une thèse de M. Cyril Pasquier aussi qui avait fait quelque chose là-dessus. Mille, c'est un chiffre parfait dans l'Écriture sainte. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que, au fond, du point de vue de l'Écriture sainte, je me base, est-ce que ça signifie quelque chose de définitif? Mais de créer tout de même, c'est-à-dire qu'il y a eu un commencement, quoi. Parce que nous aurons une vie éternelle, mais... c'est-à-dire que notre âme ne mourra jamais, où qu'elle se trouve, mais elle a eu un commencement. Donc l'idée de mille dit qu'il y a une création, mais dit aussi une perfection et donc une absence de fin. Bon, c'est une hypothèse, hein. Donc le dragon est enchaîné pendant 1000 ans. Alors, voilà, mais ensuite on dit qu'il est relâché pour un peu de temps, donc ça a quand même l'air un peu curieux. Alors est-ce que ce temps fait allusion au paragraphe suivant qui est donc le jugement? Le jugement où tous les morts sont jugés, ils sont rendus à la mer rend ses morts, etc. etc., etc. Voilà. Alors, évidemment ce passage des livres ouverts peut nous faire penser au sanctuaire de Montlignon aussi, où il y a... Montlignon, il y a un très très beau vitrail, non pas à la basilique, mais à l'église du village. Quand on entre par une porte, j'allais dire, pas latérale, parce que c'est une porte de derrière, mais elle est sur le côté, elle n'est pas au centre. Et si on va directement sur la chapelle latérale, on a un vitrail qui est assez bouleversant, où l'on voit Dieu le Père, enfin... Oui, un vieil homme barbu, donc qui est habituellement représenté, représente Dieu le Père, très bon. Un ange avec à genoux devant lui qui présente un livre. Et puis à côté, il y a un ange qui tient une balance. Et donc dans cette balance, d'un côté, il y a la personne jugée. Et donc, il s'agit de voir où ça penche, quoi. Voilà, qui est le plus lourd. Et puis, il y a un troisième, ou plutôt un quatrième personnage qui apparaît, c'est la Vierge Marie. Et alors, c'est assez bouleversant, ce vitrail, parce que Marie pose ostensiblement le doigt du côté de la balance où il n'y a rien, et regarde fixement le Père. Et évidemment, elle fait pencher pour faire remonter le pauvre malheureux. Et alors, je trouve ça bouleversant, parce que d'un côté, on a le regard de la Vierge Marie qui a l'air de dire je le veux celui-là. Celui-là, j'ai décidé. Et de l'autre côté, le Père qui dit bah, si elle le dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est assez bouleversant, ce vitrail. Moi, il m'avait bouleversé. Je m'imagine que je ne sais pas à quelle époque il a été fait, mais si Peggy a vu un truc comme ça, ça a dû certainement l'inspirer beaucoup. Bon, donc voilà la question du jugement, et du jugement dernier, la seconde mort. Alors, c'est l'occasion de parler, j'ai évoqué hier le Dies Irae, Dies Illa, que l'on chante encore dans la liturgie, en tout cas bénédictine, hein, je ne sais pas comment c'est chez les autres. Autrefois, c'était à la commémoration des morts, le 2 novembre, à la messe, il y avait une séquence, donc voilà. Jour de colère, que ce jour-là, qui doit réduire le monde en cendres, au témoignage de David comme de la Sibylle. combien la frayeur sera grande lorsque le juge se présentera pour tout scruter rigoureusement, la trompette éclatante retentissant par les sépulcres de l'univers, rassemblera tous les humains devant le trône. La mort et la nature seront dans la stupeur lorsque ressuscitera toute créature pour répondre à son juge. On produira le livre écrit renfermant tout l'objet du jugement du monde. Quand donc le juge s'assiera, tout ce qui se cache apparaîtra, rien ne demeurera sans châtiment. Que dirai-je alors, malheureux? Quel protecteur implorerai-je quand à peine rassuré sera le juste? Roi de majesté redoutable qui sauvez gratuitement ceux qui doivent se sauver, sauvez-moi, source de miséricorde. Souvenez-vous, ô doux Jésus, que je suis la cause de votre venue, ne me perdez pas en ce jour. En me cherchant, vous êtes assis de fatigue. Vous m'avez racheté en souffrant la croix. Que tant de peines ne soient pas inutiles. Juge vengeur et juste, accordez-moi remise avant le jour des comptes. Je me lamente comme un coupable que je suis. La confusion de mon péché couvre mon visage. Ô Dieu, pardonnez à un suppliant. Vous avez absous Madeleine, vous avez exaucé le larron. À moi aussi, vous avez donné l'espérance. Mes prières ne sont pas dignes, mais vous êtes bon. Faites dans votre bonté que j'échappe au feu éternel. Donnez-moi place au milieu des brebis. Séparez-moi des boucs en me rangeant à votre droite. Quand les maudits couverts de honte seront livrés par sentence aux terribles flammes, appelez-moi dans les bénis. Suppliant, défaillant, le cœur broyé comme réduit en cendres, je vous en prie, veillez sur mon heure dernière, jour de larmes que celui où ressuscitera de sa cendre. Pour être jugé l'homme coupable, daignez lui pardonner. Ô Dieu, ô doux Jésus, Seigneur, donnez-leur le repos. Voilà. Je l'ai lu intégralement. C'est une très belle hymne. Hein. Moi, je regrette beaucoup qu'elle soit apparemment plus chantée. Qui a le mérite de nous rappeler qu'à la fin, il y a des comptes à rendre et que, contrairement à ce que chantait Polnareff, on n'ira pas tous au paradis. Et puis, alors, au début, donc, il y a la question de la Sibylle, qui est quand même un peu énigmatique. J'imagine pour la majorité d'entre nous. Donc c'est une allusion au célèbre oracle de la Sibylle Érythrée sur la fin du monde, cité par saint Augustin dans la Cité de Dieu, et qui a une particularité, c'est que les premières lettres de chaque vers réunis donnent en grec, c'est un poème en grec, la formule « Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur ». Bon, j'ai été regarder ce qu'on trouvait sur Internet. C'est pas si simple, j'avais dit l'autre jour qu'on trouvait. Bon, alors j'ai fini par trouver quelque chose de pas mal. C'est une étude de 24 pages qui s'appelle « Augustin, les Sibylles et les oracles sibyllins » de Jean-Michel Roesli, Université de Fribourg en Suisse. C'est un PDF qu'on trouve, hein, concordia.k, donc au Canada. Bon, enfin, puis Google, on s'en sort bien. En fait, j'ai fait quoi pour avoir ça? J'ai tapé Oracle de la Sibylle Érythrée. E-R-Y-T-H-R-E-E. Et donc, assez vite, on trouve une Concordia University. Bon, c'est en français. Hein. Alors, c'est assez intéressant, si ça vous intéresse d'entendre parler un peu des Sibylles. Et donc, c'est Augustin à qui on doit ça, qui n'a pas du tout remis en cause le fait que la Sibylle et puis être l'auteur de l'affaire, alors que on pourrait penser que c'est un écrit apologétique des premiers siècles, apocryphe aussi, écrit en fait par des juifs ou des chrétiens, quoi. Bon, donc là je suis pas du tout compétent évidemment, hein, mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de descendre un peu pour aller voir ce que raconte cette histoire-là. Voilà, la réflexion d'Augustin sur les Sibylles dans la Cité de Dieu, chapitre 18e, 23, préfigure le long des... Voilà, il consacra l'évêque d'Hippone, il donne l'exemple de plusieurs oracles sibyllins traduits en latin, parmi lesquels un acrostiche appelé à connaître une fortune considérable, au Moyen-Âge, le poème « Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur ». Pour bien comprendre l'importance qu'Augustin donne à ces paroles, il est impératif de tenir compte du contexte général dans lequel il est introduit, surtout dans une œuvre aussi savamment conduite. Or, que constatons-nous? Il fait intervenir dans la deuxième partie du traité, plus exactement dans une section qui s'étend, etc. Sa conception de l'histoire universelle, il y distingue trois étapes et trois grands moments. Donc Augustin s'en sert pour parler de l'histoire du peuple Dieu, l'histoire profane et la récapitulation de l'histoire. Donc dans son œuvre, la place laissée aux sibylles est importante. Elles appartiennent à l'histoire païenne ou histoire profane, qui se distingue donc évidemment de l'histoire du peuple de Dieu. Et Augustin semble ignorer, ou le fait exprès, que le poème de la Sibylle, donc comme je le disais tout à l'heure, qui circule à son époque, sont majoritairement des pseudo-épigraphes, rédigés à des fins apologétiques. Il se montre prêt à les accepter comme authentiques, d'authentiques témoignages de la prescience païenne, à les considérer comme de véritables prophéties. Et donc pour Augustin, la Sibylle parle du Christ avec tant de vérité et contre les faux dieux et les adorateurs avec tant de force qu'elle devrait compter au nombre des membres de la cité de Dieu. Aussi bien que d'origine païenne, les Sibylles ne sont pas rattachées à la Civitas Terrena, comme les anges déçus, la cité terrestre, mais ensemble doivent être intégrées à la Civitas Dei, la cité de Dieu. Voilà, moi je voulais juste citer ça pour ceux que ça intéresserait, un peu de culture. Et ça est clair parce que ça montre aussi, parce qu'a écrit Augustin, montre aussi que l'histoire des païens et le rôle des païens, quand on connaît un peu l'écriture, Cyrus, c'était quand même un sacré païen. Hein. Il est question de lui dans le livre d'Isaïe. Et c'est quand même Cyrus qui a permis la restauration du culte, notamment. Donc il y a des païens dans l'Ancien Testament. Et je pense que c'est une bonne occasion de se rappeler que ils font partie aussi du plan de Dieu d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc en tout cas, ce jugement, donc, vous pouvez reprendre ce poème hein, de Dies Irae, Dies Illa, on le trouve en français, sur Internet, et donc qui forme à lui seul bah, toutes ces lettres hein, dont j'ai parlé. Donc Augustin en a fait une traduction latine. Signe du jugement, la terre sera trempée de sueur, du ciel viendra le roi qui régnera dans les siècles, etc. Évidemment, il y a eu quelques problèmes avec la lettre epsilon, parce qu'elle n'existe pas en grec, en latin. Mais bon, voilà, vous pourrez trouver ça si ça vous intéresse. Et c'est une belle méditation pour cette année, à l'avant-dernier jour de l'année liturgique. Puis alors, à la fin de notre texte de l'Apocalypse, quand même, je voudrais revenir là-dessus, il y a quand même une bizarrerie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même un truc un peu curieux. C'est qu'il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien, et puis finalement, la Jérusalem céleste descend du ciel. On pense qu'elle se pose sur terre, vu d'ici en tout cas, donc c'est un peu curieux. À la fois, il y a cette idée donc bah, c'est fini, quoi. C'est vraiment la vie éternelle qui commence, et à la fois il y a quelque chose qui, ben, si elle descend, c'est qu'il y a, bon voilà, je laisse ma phrase sans la finir, il y a une rencontre, terrestre, on pourrait penser en tout cas elle est parée pour son époux, voilà, malheureusement il y a écrit Marie dans le texte de la traduction, je pense que époux, épouse, épousaille, ce serait quand même autrement d'une plus heureux. Voilà. Et puis, donc, c'est très énigmatique, hein, je fais un pauvre commentaire hein, aujourd'hui, très particulièrement. Donc, dans l'évangile, c'est encore plus énigmatique. Voilà. Vous voyez le figuier, ben, quand vous verrez le figuier bourgeonner, vous savez que l'été approche. Bon, chez nous, c'est pas tout à fait vrai, hein, parce que les figues blanches, c'est plutôt au mois d'août, quoi. Mais bon, enfin, c'est peut-être vrai quand même, puis il y a d'autres figuiers, mais à cette époque-là, en tout cas, ça avait un sens. Et alors Jésus dit que la génération à laquelle il parle verra les choses qu'il dit, donc manifestement, il y a plusieurs sens. Hein. Là, on est dans l'effondrement de Jérusalem, qui arrivera quelques années après la mort de Jésus et sa résurrection, mais... ça fait allusion aussi, la liturgie l'utilise en tout cas pour parler de fin des temps aussi, voyez. Donc pour nous, il s'agit de discerner le bourgeonnement de la fin des temps. Alors il y a la fin des temps individuelle, qui est la mort personnelle, et puis la fin des temps définitive, qui est un peu la seconde mort, C'est-à-dire qu'il y a le jugement, et après le jugement, eh bien, l'âme est admise à la résurrection, ou bien, enfin, elle n'est pas admise à la résurrection, les deux ressuscitent, mais il y en a une qui est admise à la vie éternelle en présence de Dieu et des saints, et l'autre qui n'est pas admise. Voilà. Alors pourquoi elle n'est pas admise? Bon, c'est un peu le mystère de l'enfer, hein. Sainte Catherine de Sienne, je crois, docteur de l'Église, dit que les portes de l'enfer sont grandes ouvertes, mais les diables, les démons, dont on est sûr qu'ils y sont, ne veulent pas en sortir. En voyant, c'est quand même un peu curieux, votre histoire. Mais en fait, la définition de l'enfer, elle est très très simple. Elle est très très simple. L'enfer, c'est je ne veux pas de l'amour dont tu m'aimes. Attention, hein, je ne suis pas en train de parler de créature là. Je ne veux pas de la manière dont tu m'aimes. On dit ça à Dieu. Je ne veux pas être aimé comme tu m'aimes. Et comme Dieu aime, eh ben les démons souffrent éternellement de la manière dont Dieu les aime et n'en veulent pas. C'est ça l'enfer. C'est assez mystérieux. Ils ne veulent pas. Voilà. C'est curieux à comprendre. Hein. Enfin, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quand même le péché le plus imbécile qu'on ait jamais trouvé. Mais ça marche. Car regardez l'œuvre du démon. Ça marche. Donc voilà. Bon, c'est assez pauvre aujourd'hui, je suis conscient. Pour le dernier jour de l'année, puisque demain ce sera Saint-André, donc ce ne sera pas les lectures de la féerie, mais les lectures du saint. Eh bien, en tout cas, c'est l'occasion, encore une fois, pour nous de méditer cette vérité qu'il y a des comptes à rendre, ce qui n'a rien d'extraordinaire, hein, on passe sa vie à rendre des comptes, et vis-à-vis de Dieu, c'est pareil. Alors les comptes à rendre, c'est pas forcément sur ce qu'on a fait, ça peut être sur ce qu'on n'a pas fait, et ça peut être aussi sur ce qu'on n'a pas osé accueillir, quoi. Qui est de l'orgueil, hein. Non, non, mais il faut que je fasse. Oui, il faut surtout accueillir le Seigneur. Et c'est lui qui fait. C'est vraiment, ça, c'est vraiment important. Il me semble qu'il y avait une allusion à ça d'ailleurs. Qui n'ont pas dans j'ai vu un grand. Si elle est morte, un autre livre. Bon, il me semblait avoir vu que c'est peut-être dans la lecture d'hier, en fait, où on dit, ben non, enfin, c'est ils l'ont fait parce que ça leur a été donné par Dieu, quoi. Donc, bien mettre en valeur ce que Dieu nous donne. Voilà, et puis, bien, entre les deux, il y a ceux qui vivent quand même des sortes de terreur, hein. On peut penser au cas de guerre, guerre atomique, etc., etc., où ça ressemble un peu à une fin des temps. Mais c'est certainement la fin d'un temps, ça il n'y a pas de doute. Mais voilà, l'homme est capable, sous l'influence de Satan, l'homme est capable de choses gravissimes. Eh bien, prions pour ceux qui sont donc au purgatoire, puisque ceux qui seront jugés là, c'est évidemment pas les saints, puisqu'ils sont canonisés, qui sont auprès de Dieu. Enfin, eux, en tout cas, leur cas est réglé. Je ne sais pas s'ils seront rejugés, mais et prions pour les âmes du purgatoire qui sont un peu comme nous, hein. On est très proche des âmes du purgatoire. Ce sont simplement les âmes du purgatoire, ce sont simplement des âmes qui n'ont pas fait suffisamment le bon choix et qui n'ont pas su se laisser préparer pour voir Dieu. Et donc, elles doivent passer un peu d'exercice pour que elle soit capable d'être transformée pour voir Dieu. Voilà. Donc j'ai une souffrance terrible, même si elles savent qu'elles sont sauvées. Donc nous pouvons les aider en priant pour elles. Elles peuvent nous aider aussi en disant eh oh les gars, faites mieux que moi. Voilà. Eh bien, pensons-y. C'est une réalité, c'est une vérité. Faisons-nous des amis. Avec l'argent malin, comme dit Jésus, l'argent trompeur. C'est-à-dire faisons-nous des amis avec ce temps qui passe et qui n'est que passager, en vue d'un temps qui ne passera pas.